franceinter.fr.
Bonjour Christian Eckert.
Bonjour.
Je vous présente deux manchettes, deux titres de une vue ce week-end parmi beaucoup d'autres. Le journal du dimanche, l'après Hollande a commencé. Et puis le Figaro de samedi, à gauche, plus personne ne croit en François Hollande, c'est vrai ?
Oui, écoutez, ce qui est important, c'est de continuer notre travail. On est à l'aube de la discussion budgétaire.
C'est pas ma question.
Oui, mais écoutez, c'est toujours important quand un ministre s'exprime, c'est d'abord dans le cadre de ses fonctions. Moi, j'accompagne le président tout à l'heure à Florange.
Oui, j'allais
c'est
y
important.
Venir,
oui. J'aurai évidemment des échanges avec lui sur ce point, mais permettez-moi de les garder pour moi.
C'est parce que vous l'accompagnez à Florange que vous croyez en François Hollande ?
Non, pas du tout. C'est parce que je sais que François Hollande est quelqu'un de conviction, de détermination. Quelqu'un de déterminé, que je l'ai vu dans des situations difficiles, ça peut être le cas à tout moment, c'est parfois aussi le cas en Lorraine, et je sais qu'il mérite d'être soutenu, accompagné, et que l'on travaille jusqu'au bout du quinquennat.
Donc, plus personne à gauche ne croit en François Hollande, c'est pas vrai.
Écoutez, moi j'ai de fortes convictions en l'avenir de François Hollande et en sa capacité, compte tenu de l'expérience forte qu'il a acquise, de pouvoir conduire à nouveau les destinées du pays.
Alors, à Florange, c'est chez vous, hein. Vous êtes né à 10 km de là, vous avez enseigné à FAMEC.
Oui, juste à côté, j'ai même travaillé à Florange pendant mes vacances quand j'étais étudiant.
Il est populaire à Florange, François Hollande ?
Écoutez, il a pris un certain nombre d'engagements qu'il a tenus, et il y a eu d'autres engagements qui, peut-être pas de lui personnellement, mais qui ont interpellé la population. D'ailleurs, un certain nombre de municipalités ont basculé, certaines au Front National, à Hayange d'ailleurs, c'est bien connu. Mmh. Et je crois que la population l'attend pour continuer le dialogue, un dialogue franc, on va le dire, oui. En termes diplomatiques,
hein,
parce que les Lorrains sont pas de nature à excuser les choses, mais il faut constamment expliquer les difficultés qui ont été les nôtres et celles de l'industrie sidérurgique. Vous savez, Florange n'a été finalement qu'un épisode dans une longue descente de l'industrie sidérurgique qui remonte aux années 70-80.
Christian Eckert, en langage courant, les promesses ont été tenues ou elles n'ont pas été tenues ?
François Hollande avait promis qu'il n'y aurait pas de licenciement à Florange et ça a été tenu. François Hollande avait promis de mettre en place un centre de recherche sur la sidérurgie et ça a été tenu.
Tout le monde a compris que les hauts fourneaux continueraient de fonctionner, ils ont fermé.
Oui, mais je crois que avoir dit un moment où laisser croire, c'est pas d'ailleurs François Hollande qui l'a le plus laissé croire, c'est peut-être d'autres de ses ministres. Je crois que c'était emmener les gens dans une impasse.
Le mot qui revient le plus souvent dans les reportages, y compris ceux qu'on a diffusés ce matin sur l'antenne de France Inter, c'est le mot trahison.
Bon, écoutez, je crois pas que François Hollande ait trahi. Il s'en est expliqué d'ailleurs ce matin dans un interview de la presse locale. Trahir, c'eût été de ne pas s'assurer qu'il n'y ait pas de licenciement direct, ne pas s'assurer qu'il y ait de la formation, de la recherche, parce que la sidérurgie lorraine a été confrontée à bien des difficultés. Il faudrait beaucoup de temps ici pour le détailler.
Vous diriez que c'est un succès de l'action du quinquennat ?
Bien sûr que non. Il a été question d'endiguer une vague de diminution de l'activité sidérurgique en Lorraine, comme d'ailleurs dans toute l'Europe. La question de la concurrence, notamment de l'acier chinois, est une question très importante.
Le budget 2017 sera présenté demain à l'Assemblée nationale avec la mesure phare sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure avec les auditeurs, le prélèvement à la source à partir de 2018. Vous aurez donc face à vous une opposition de droite qui va contester le sérieux, la sincérité de ce budget, des frondeurs du PS qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire, de toute façon ils vont s'abstenir, et puis d'autres députés PS emmenés par la rapporteure Valérie Rabault qui demande au gouvernement un geste pour les petite retraite, une baisse de la CSG. Ils sont une soixantaine à demander cela. Que leur répondez-vous, Christian Eckert ?
Écoutez, nous travaillons avec le groupe socialiste, encore aujourd'hui et demain, et bien sûr dans les jours qui viennent. Je crois que le gouvernement a une position plutôt ouverte sur ce point. Il y a eu, suite à un certain nombre de décisions, y compris de nos prédécesseurs, on va pas trop rentrer dans la technique, mais une augmentation de le revenu fiscal de référence qui fait que la CSG par les retraités, qui est d'ailleurs inférieure déjà à celle que payent les actifs, cette CSG a pu pour un certain nombre d'entre eux augmenter. Essayer de revenir sur les perdants, puisqu'il y a eu entre 600 000 et 1 million de retraités qui ont pu y perdre parfois une dizaine, un peu plus d'euros, ce qui pour des petites retraites peut être important. Revenir sur cette mesure par par le jeu des seuils qu'il faudrait réaugmenter. C'est une possibilité, mais avec un impératif. C'est que le déficit du budget qui entre à l'Assemblée nationale demain ne doit pas être alourdi à la suite de la discussion. C'est-à-dire que si nous prenons une mesure positive qui pourrait coûter, si j'ose dire, quelques centaines de millions d'euros, autour de 300 millions, suivant le niveau duquel on relève les seuils, il faudra en trouver quelques compensations, c'est-à-dire soit des économies ailleurs, soit des recettes supplémentaires.
Vous avez des pistes ?
C'est ce à quoi nous travaillons, en tout cas, avec la rapporteure générale et les députés du groupe majoritaire.
Donc, à vous entendre, c'est une hypothèse qui est loin d'être exclu, est possible ?
Tout à fait. C'est une position d'ouverture, d'écoute et encore une fois d'équilibre en fonction des recettes ou des économies qui pourraient être trouvées. En tout cas, c'est un sujet qui est identifié, qui est connu. Moi-même, d'ailleurs, j'avais fait un certain nombre de propositions avant même d'entrer au gouvernement.
Alors, tout le budget, le projet de loi de finances qui sera voté à l'issue du, ce qu'on appelle habituellement le marathon budgétaire qui va durer 2 mois à partir de demain, pourra être remis en cause par la nouvelle Assemblée nationale qui sera issue des urnes en juin prochain. Mais vous dites, non, le prélèvement à la source, ça se fera quoi qu'il arrive au 1er janvier 2018. C'est pas la position des, vous l'avez entendu, des candidats qui se présentent à la primaire de la droite.
Oui, une position qu'ils adoptent, semble-t-il, un peu par principe. On est à la veille d'élection, donc tout ce que font les uns, c'est pas bien, et eux feront, évidemment. Évidemment mieux, c'est un jeu malheureusement que l'on connaît trop souvent. Ce qui est important, c'est que nous nous mettons en condition pour réussir le prélèvement à la source, dont les avantages sont nombreux, notamment qu'on paye l'impôt en fonction des revenus réels de l'année, non pas de l'année précédente. On pourra y revenir, mais ce qui est important, nous nous mettons en condition, c'est-à-dire que il faut passer des commandes sur un certain nombre de logiciels, il faut formater notre administration à une nouvelle façon de travailler, former des gens, en recruter, en tout cas s'assurer que nous aurons les moyens de le mettre en œuvre au 1er janvier 2018. Et ça, c'est lancé. Ce serait dommage de le stopper en plein vol, si j'ose dire.
Est-ce que vous avez chiffré le choc psychologique qui pourrait aussi être un choc économique de salariés qui, soudain, voient le chiffre qu'ils ont en bas de leur feuille de paye diminuer très sensiblement d'un coup à partir de janvier 2018, si ça se met en place?
Et moi, j'ai confiance en l'intelligence des gens. Je veux dire, ne plus avoir de prélèvement le 15 du mois,
d'un dixième pour ceux qui sont mensualisés.
Ça. Oui, mais enfin, pour les trimestres, ça revient au même, si on l'étale. Donc, ne plus avoir de prélèvement le 15 du mois qui était d'un dixième de l'impôt et en avoir un à la fin du mois qui ne sera que d'un douzième de l'impôt, c'est-à-dire inférieur à ce qu'il était, je crois que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'en termes de trésorerie, il n'y a pas d'impact. Alors, la psychologie, ça, c'est encore plus intime. On a des fois du mal à faire de la psychologie après, alors en faire avant, ça me paraît compliqué.
Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, on vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de France Inter. Dans un instant, la revue de presse.